Europe 1.
Europe 1, 10h, 11h.
Médiapolis.
Catherine Ney, Olivier Duhamel.
Bonjour Catherine Ney.
Bonjour Olivier, bonjour Jérôme Jaffré qui est notre invité ce matin que nous saluons. Bonjour Justine et bonjour, bonjour à celles et ceux qui nous écoutent.
Oui, bonjour à tous, c'est Médiapolis, toujours en direct, toujours le samedi. Émission réalisée par Jean-Luc Arblat, préparée par Capucine Patouillet, animée en compagnie de Justine Holman. Et Justine, aujourd'hui avec nous, votre ami Jérôme Jaffré, l'excellent politologue, directeur du CECOP, du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique. Exceptionnellement, vu l'actualité, nous ne commençons pas par un complot, nous n'avons pas de complot sur le changement de Premier ministre. Nous avons Jérôme Jaffré, ce sera peut-être un petit peu moins rigolo, mais beaucoup plus sérieux. Jérôme, nous avons donc appris hier matin que le président de la République avait choisi d'avoir un deuxième Premier ministre pour son premier mandat unique ou pas, et qu'il avait choisi de nommer Monsieur Jean Castex. Quelle est votre première appréciation sur le simple fait de choisir de changer de Premier ministre ?
Ça n'est évidemment pas un événement anodin. C'est une des ruptures dans un mandat présidentiel. Le changement de Premier ministre, c'est un événement politique. Et au fond, on peut se dire pourquoi Emmanuel Macron a-t-il voulu changer de Premier ministre ? Mon sentiment, alors il est toujours difficile de se mettre dans la tête des dirigeants politiques, mais on peut essayer de le faire, hein, vous le faites régulièrement dans Médiapolis. Pourquoi ? C'est sans doute pour éviter que le quinquennat ne soit jugé que d'une seule pièce, qu'il n'y ait qu'un seul épisode, qu'il n'y ait que Macron-Philippe, point final, parce qu'à la fin, on a encore plus envie de changer. Si le président veut montrer que lui-même change, c'est en changeant les autres, je dirais d'une certaine façon, qu'il le fait. Et puis, deuxième élément qui a pu peser, la relation Macron-Philippe, on y reviendra peut-être, et le problème de savoir si Philippe lui-même avait très envie de rester, on peut y revenir. Mais la deuxième raison, sans doute, c'est une autre façon de gouverner, c'est-à-dire moins technocratique, que le président veut mettre en avant. Ce qui était répandu, c'est l'idée que la France était gouvernée par quatre technocrates qui se réunissaient régulièrement, c'est-à-dire le président, le premier ministre et le directeur de cabinet, le secrétaire général de l'Élysée, dans une approche essentiellement technocratique, et que donc la nouvelle façon de gouverner qu'Emmanuel Macron voudrait mettre en avant, je doute que ça aille très très loin, mais c'est davantage de dialogue, davantage d'écoute. Il faut donc montrer une autre façon de gouverner. Ça plaidait aussi pour le changement.
Catherine, si vous me permettez, juste avant d'avoir votre analyse à vous, j'ai essayé ce matin, en préparant cette émission, de faire un petit peu de Catherine Ney et de...
Est-ce possible ?
Oui, je reconnais que c'est un objectif à peu près hors d'atteinte. Et de faire un sorte de portrait tranché, de comparaison tranchée des deux personnages, malgré tout ce qu'ils ont en commun, ce qui est évident, ce qu'ils ont en commun, Sciences Po, l'ENA, aux fonctionnaires, maires, etc. L'un est grand, l'autre est de taille très moyenne. L'un est...
Moyenne supérieure, quand même.
Ouais, moyenne supérieure. Alors, vous me corrigez au fur et à mesure, c'est très bien. L'un est très droit, se tient très droit, l'autre est plutôt courbé. L'un est assez immobile, l'autre n'arrête pas de bouger. L'un est sans accent, l'autre a un accent assez prononcé.
Natif du Gers.
Voilà, l'un est vraiment du Nord, né à Rouen et maire du Havre, l'autre est on ne peut plus du Sud-Ouest, de l'extrême Sud-Ouest, puisque né à Gers est descendu plus bas encore.
Au pied du Canigou.
À Pardes, au pied du Canigou. Mmh. La mère d'Édouard était professeure de français, la mère de Jean, institutrice. Et puis alors, dernier point peut-être, le premier cultive jusqu'au bout, peut-être, même s'il essaye d'être authentique et qu'il l'est, un style quand même très maîtrisé, et l'autre, un style, je dirais presque délibérément relâché. Est-ce que vous, ce contraste...
Oh, moi, je ne dirais pas relâché, non, qui doit s'affirmer. Écoutez, ces deux versions, ce sont deux énarques, mais disons que Jean Castex est dans une version plus rustique. Mais, je veux dire, il connaît, comme Édouard Philippe, les rouages de l'État. Et s'il a été choisi par Emmanuel Macron, d'abord parce qu'ils se connaissent depuis longtemps, ça a été d'abord une relation de secrétaire généraux adjoint en secrétaire généraux adjoint. Parce qu'il y a un moment où quand Hollande, François Hollande est resté à l'Élysée, a été élu, Nicolas Sarkozy reste à l'Élysée pendant 15 jours. Vous savez, pendant ce laps de temps, ils se sont vus. Et Jean Castex était dans l'idée, enfin, était dans les pensées de Emmanuel Macron, parce qu'à un moment, on a pensé, quand on disait qui pourrait remplacer Castaner, on pensait déjà à lui. Et puis, on lui a donné l'organisation des Jeux Olympiques, et puis, il était monsieur des confinements. Donc, il était tout à fait dans le périmètre autour du président. Et en plus, c'est un ami du secrétaire général de l'Élysée. Bon, mais quand vous dites qu'il y a eu une gestion très technocratique avec, d'un côté, le Premier ministre, le directeur de cabinet, le président de la République et le secrétaire général. Mais ça, c'est une réédition des deux premières années du septennat de Jacques Chirac, où on avait l'impression que c'était quatre hommes qui dirigeaient la France. C'était Alain Juppé, son directeur de cabinet Gourde-Montagne, Jacques Chirac et Dominique de Villepin, le secrétaire général. Et d'ailleurs, ça posait de gros problèmes avec les ministres déjà. Bon, mais c'était vraiment un quatuor, alors qu'il y a, bon, et c'est ce quatuor, d'ailleurs, qui a décidé, entre au moins deux, de danser les élections anticipées, et là, bon, qui a été une grosse erreur. Mais en tous les cas, ça s'est déjà fait pendant 2 ans.
Dans ce cas-là, je dirais simplement que celui qui dirigeait le moins, c'était Jacques Chirac, sans doute.
Oui, ça c'est vrai.
Que vous avez
oui,
défini.
Oui, c'est vrai.
À chaque fois qu'il peut mettre les vannes à Jacques Chirac.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin,
voilà,
c'était
les trois autres, en revanche, dirigeaient. Voilà, vous avez tout à fait raison. Tandis que là, avec Emmanuel Macron, on a quand même quelqu'un qui dirige plus que les autres. C'est une différence. Un mot, si vous permettez, sur Jean Castex lui-même. C'est-à-dire que d'une part, il y a quand même un message à Édouard Philippe, qui pour les Français est celui qui a réussi la gestion de la pandémie et la sortie de la pandémie. Il s'agit d'envoyer le message que le déconfinement réussi, c'est Jean Castex. Mmh. Et donc, ce rôle d'Édouard Philippe n'est pas tout à fait celui qu'on croit. C'est un petit message subliminal, mais indirect.
Mais je pense que dans le message, je reconnais que je n'ai pas réussi à faire du Catherine Ney parce que je n'ai pas ce talent, mais dans le message, je pense que la dimension du style compte aussi. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe, c'était vraiment un prototype assez classique et dont l'objectif premier, quand elle a été nommée, était quand même de gagner le plus possible les élections législatives. Et là, c'est quand même vraiment, je dirais, un style post-gilet jaune, quoi, un style territoire, terroir, France d'en bas.
Et ça compte, car le deuxième point que je suis amusé à aller regarder, les résultats des élections municipales à Prades, Pyrénées-Orientales, 6000 habitants, dont le maire jusqu'à hier était Jean Castex.
76%.
Jean Castex, il a été élu en 2008 pour la première fois, au deuxième tour, 50,4% contre 49,6%, comme c'est souvent le cas dans les municipales. 2014, réélu, premier tour, 70%. 2020, réélu, premier tour, 76%. Ça signifie quand même quelque chose sur une capacité électorale dont on pourrait se dire a priori, Jean Castex en est dépourvu, c'est l'eau fonctionnaire. Pas du tout. Quelqu'un qui est capable de passer de 50 à 70, 76, c'est quelqu'un qui sait ce qu'est des élections.
Oui. Mais alors, ce qui m'a frappé hier, justement, c'est alors qu'on disait c'est un homme de droite et qui ne s'en cache pas, comme s'il devait s'en cacher. Bon, là, tous les gens de gauche que l'on a interviewés, comme le président du conseil départemental de Philippe Martin du Gers, qui est un ami, et comme j'ai oublié son nom, qui travaille sur les Jeux Olympiques, le socialiste... Stéphane Troussel, merci. Eh bien, tous disent la même chose, que c'est un homme de dialogue, qui cherche le consensus, qui est dans l'empathie, et qui n'est pas sectaire, quoi. C'est quelqu'un qui est très ouvert. Et sûrement, on verra bien, il a beaucoup d'autorité. On verra s'il a de la rigidité, c'est ce que certains pouvaient reprocher parfois à Édouard Philippe. Mais enfin, c'est quelqu'un d'une personnalité... disons, ouverte.
Au-delà de ses caractéristiques, ses portraits, ses compliments même, est-ce que tout simplement ça n'oblige pas à une loi quasi constante de la Ve République ? Je vous propose de l'énoncer dans une minute.
Europe 1, Mediapolis.
Jusqu'à 11h, on vous retrouve, Olivier Duhamel et Catherine Ney, avec Mediapolis. Ce samedi, vous recevez Jérôme Jaffré, politologue et directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique.
Jérôme Jaffré, vous me connaissez depuis la nuit des temps, et donc vous connaissez ma théorie sur le deuxième Premier ministre.
Elle est assez partagée, oui.
Oui, j'entends bien. Comme elle est pertinente, elle a été reprise. Et la thèse, c'est que le premier Premier ministre est quelqu'un qui a une forte existence politique propre et donc une certaine autonomie, que c'est Michel Debré, Jacques Chaban-Delmas, quand Pompidou est élu, Jacques Chirac, Pierre Mauroy, Raffarin, et puis Hérault même, et puis au bout d'un certain temps, le président de la République veut marquer une nouvelle étape, il change de Premier ministre, et il prend quelqu'un qui est plus l'homme du président, qui au moins au début sera plus dépendant, parce qu'il n'a pas la même assise politique. C'est flagrant avec Pompidou qui n'en avait aucune. Mesmer qui était un modèle de fidélité. Raymond Barre, Fabius, Villepin et maintenant Castex. Et je pense que cette théorie s'explique aussi par le fait que Matignon étant le centre nerveux du pouvoir, au fur et à mesure que les années passent, de plus en plus, le président prend conscience, de plus en plus de choses sont derrière la mise en œuvre également co-décidé par Matignon et veut reprendre la main. Et que donc, finalement, ça n'est que cette loi qui s'applique à nouveau. Est-ce que vous seriez d'accord ou est-ce que votre légendaire plaisir de me contredire va se manifester une fois de plus, Jérôme Jaffré ?
On y va à fond sur la deuxième hypothèse. Alors moi, j'ai réfléchi sur cette... J'aime comme vous les typologies. Hein, et j'ai réfléchi sur des typologies de choix de Premier ministre et je distinguerai, ce que vous dites est bien sûr à des exemples entièrement justes, il y a le poids politique du Premier ministre nommé, il y a la proximité avec le président et il y a la recherche d'un profil, je dirais, pour distinguer les choses. Le poids politique, ça va effectivement, dans un certain nombre de sens, un Jacques Chaban-Delmas, un Pierre Mauroy, on voit bien Alain Juppé, c'est la proximité, par exemple. Et s'agissant d'Emmanuel Macron, il ne recherche évidemment pas le poids politique. La proximité n'existe guère parce que Emmanuel Macron est un homme seul, arrivé par ses propres et ses seuls talents au pouvoir. On est donc plutôt dans la recherche d'un profil. Et la recherche d'un profil, c'est le choix du président. Et finalement, il n'y a pas de différence entre le fondamental entre le choix du premier ministre de Macron et du second premier ministre de Macron, ce qui abolit totalement votre théorie dans le cas du macronisme. Le profil, c'est la recherche d'un homme de droite, pas trop à droite, mais du centre droit, qui n'est pas de rôle dans un parti politique, il peut en être membre, mais à condition de ne pas compter dans un parti politique. Et évidemment, c'est une promotion inespérée pour la personne qui reçoit. Édouard Philippe disait « Au mieux, j'aurais été ministre des Transports sous Alain Juppé s'il avait été élu. » Il se retrouve Premier ministre de Macron. Quant à Jean Castex, franchement, il était délégué et il a été directeur de cabinet de Xavier Bertrand ou secrétaire général sous l'Élysée. Il se retrouvait direct Premier ministre. C'est une promotion inespérée. Elle crée une hiérarchie évidente avec le président. Non, je crois que pour ce second passage, ce qui va dans votre sens, c'est casser la structure technocratique qui s'était installée dans la gestion du pouvoir pour faire autre chose, c'est la raison. Mais est-ce que vous adhérez à l'idée du poids, de la proximité, du profil pour typologiser le Premier ministre ?
Non, je suis assez d'accord qu'il faut croiser à la limite les deux modes d'analyse et que ça fonctionne assez bien.
Mais enfin, Emmanuel Macron est l'inventeur d'Édouard Philippe. Hein, c'est lui qui l'a sorti de l'anonymat. Il ne s'était pas fait remarquer au Parlement. On ne le connaissait pas. Il était maire du Havre, juppéiste, point. Et il est arrivé et pendant un certain temps, il n'existait pas. Il était une sorte de Mr. Nobody. Et qui prenait toute la lumière ? C'était le président de la République. On l'a vu au moment des gilets jaunes, des discussions avec les maires. Et puis, peu à peu, cet homme qui bredouillait quelquefois, qui faisait des lapsus, eh bien, on l'a vu changer au Parlement. Et tout d'un coup, alors qu'il n'aimait pas le rôle de législateur, eh bien là, en patron de la majorité, alors que c'était un apatride, il appartenait à aucun parti, on a vu le style, et voilà. C'est-à-dire qu'avec toujours un ton très sobre, très mesuré, très précis, qui savait tacler l'adversaire avec beaucoup de talent et quelquefois une pointe d'humour, il a inventé un style. C'était presque un style à la britannique, comme ça, plus un style physique. Et donc, il a pris de plus en plus de poids. Alors, on dit que son directeur de cabinet était son mauvais génie, pour ceux qui voulaient le dégommer, si vous voulez, parce que c'est des gens qui ont des idées et qui ont imposé leurs idées, mais comme Pompidou avait peu à peu imposé les siennes au général de Gaulle, qui reculait, si vous voulez. Oui. Et là, c'est vrai, donc, faut pas l'oublier. Et donc, pour beaucoup de l'entourage, et il a surtout fait de l'ombre au président, je veux dire, dans les sondages. Donc, c'est inadmissible quand on veut se représenter 2 ans plus tard. Donc, il devait s'en séparer parce qu'il ne pouvait pas garder auprès de lui quelqu'un que déjà les Français regardent comme imprésidentiable.
C'est vrai que c'est assez fascinant de regarder, surtout quand surgit comme Premier ministre quelqu'un de peu connu, c'est assez fascinant de regarder la métamorphose, l'entrée progressive dans la fonction et la réussite ou pas. D'ailleurs, Édouard Philippe, en plus, a été servi par la pandémie, enfin par lui-même dans sa manière de gérer la pandémie, par une longue catastrophe qu'il a su gérer. Mais c'est vrai qu'il y a eu, dans l'histoire, il y a eu la même chose avec Pompidou, qui a petit à petit, je pense que la première fois où il émerge vraiment et où il impressionne, c'est dans un débat à l'Assemblée nationale en 1964 avec François Mitterrand. Raymond Barre, et d'ailleurs c'est aussi avec un débat avec Mitterrand que Raymond Barre prend toute son ampleur en 77 de mémoire. Et donc, on va voir avec Castex, est-ce qu'il va se produire la même chose.
Ça dit que Matignon reste une fabrique d'hommes d'État. Oui. C'est extrêmement intéressant par rapport à la théorie qui est que la fonction de Premier ministre n'existe plus, ne veut plus rien dire. Matignon est une fabrique d'hommes d'État. Ne négligeons pas que Macron, il restera qu'il a fabriqué avec Édouard Philippe un homme d'État. Qu'est-ce que deviendra cet homme d'État? Qu'est-ce qu'il fera? C'est une question qui sera certainement à poser. Et on va voir ce que devient Jean Castex. Mais alors, tous les premiers ministres ne deviennent pas des hommes d'État. Hein. C'est un écrémage absolument redoutable en la matière, mais vous avez cité un certain nombre de noms qui restent dans l'histoire politique, et je trouve qu'Édouard Philippe a réussi dans ce passage. Un grand hebdomadaire qu'on connaît bien dans cette maison a curieusement titré, il y a 3 semaines, avec à la une Édouard Philippe, l'inconnu qui gouverne la France. Mais double erreur, si je puis dire. Édouard Philippe n'était plus du tout un inconnu.
Il ne gouvernait pas
vraiment la France. Et on voit bien que pour Emmanuel Macron, cette une n'a pas dû beaucoup plaire.
Reste à savoir...
Comme n'a pas plu la une de match, parce qu'il était à la une. Et ça, on a cru que c'était...
C'est le journal dont je me permettais de parler.
Reste à savoir... quelle structure gouvernementale pourrait compléter l'impression de changement et de nouvelle étape. Et quel ministre est là-dessus. L'éclairage, tant de Catherine Ney que Jérôme Jaffray, vous sera donné très vite, puisque comme les vacances ont commencé, les pubs sont plus rapides, une petite pause.
Europe 1, Médiapolis.
Comme tous les samedis, vous écoutez Médiapolis avec Olivier Duhamel et Catherine Ney sur Europe 1. Ils sont accompagnés ce matin par le politologue Jérôme Jaffray, directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique.
Et avant de continuer notre inventaire et analyse des grands changements, écoutons quelqu'un qui dit que absolument rien n'a changé. Quelqu'un, bien sûr, du Rassemblement National. Sébastien.
On sent une certaine fébrilité de la part du président de la République à vouloir se débarrasser maintenant au plus vite d'un Premier ministre qui était devenu plus populaire que lui. On sait très bien qu'Édouard Philippe sera remplacé par un Premier ministre qui mènera d'ailleurs toujours la même politique qu'Emmanuel Macron. Et par conséquent, il n'y a rien de, aucun changement à attendre autre que sur la forme.
Hier sur Europe 1, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord, laissons tomber la discussion pour l'instant sur le fond politique, il y a le changement de Premier ministre, ça c'est indéniable, on vient d'en parler longuement. Il y a 2 autres changements, entre guillemets, annoncés, structure gouvernementale et nouveau ministre. Alors parlons du premier point, s'il est confirmé, Jérôme Jaffray, est-ce que vous pensez que la structuration du gouvernement en 5 grands pôles de super-ministres auxquels seraient rattachés des flopés de secrétaires d'État pour les aider à faire le boulot est une bonne façon de concevoir le gouvernement du pays?
On verra si ça va jusqu'au bout, parce que ça n'est pas la première fois que ce genre de choses est avancé. Hein, vous avez une situation où en réalité il faut gérer par rapport aux administrations. C'est-à-dire que ce regroupement n'est pas si facile que ça à faire. Il faut que les ministres aient prise sur une administration. Si un ministre n'a pas prise sur l'administration, et les secrétaires d'État qui auraient des objets identifiés mais sans prise sur personne, ça n'est pas possible. Ce que j'attends de voir, c'est la place accordée à l'écologie. Parce que pour le moment, c'est la grande absente de l'interview présidentielle dans la presque quotidienne régionale qui a été diffusée hier. D'ailleurs, en termes de communication, puisque nous sommes à Médiapolis, une façon d'étouffer complètement l'interview présidentielle, c'est de faire le changement de gouvernement le matin de parution de la dite interview, qui fait que personne n'en a dit à peu près un mot. C'est un exploit assez extraordinaire. La place de l'écologie. Est-ce que l'on donne... Qui prendra l'écologie? Probablement Pascal Canfin, envisage-t-on. Et est-ce qu'un certain nombre de ministères actuels type logement ou transport seront rattachés à l'écologie, voire agriculture, pour mener une politique écologique qui soit adaptée à ça? Ça, c'est une des grandes questions. Parce qu'il y a une demande de politique écologique, des problèmes politiques compliqués, parce que Europe Écologie Les Verts, c'est eux les dépositaires de l'écologie. Donc chaque fois que vous parlez d'écologie, d'une façon, on se dit « mais alors, ils travaillent pour les écologistes ». Mais en même temps, si je puis dire, vous avez une demande énorme dans la jeunesse et pour la préparation de la présidentielle le dossier de la politique écologique me paraît essentiel. Qui ira à l'intérieur ? On parle de Frédéric Pechnard, très proche de Nicolas Sarkozy. Ça donnerait une orientation politique
il
extrêmement...
Il n'a pas été, à ma connaissance, sollicité.
Il n'a pas Catherine été où il a été ?
Non, qui n'a pas été, ah, pour l'instant.
Catherine Ney, vous êtes au courant de tout, c'est ce qui nous différencie. Nous nous sommes réduits à de pauvres analyses de papier qui ne résistent guère à vos informations.
Non, c'est pas tout à fait vrai, parce que souvent, je ne parle pas du tout pour Catherine, mais le microcosme a une capacité à fabriquer des fausses informations et des leurs qui font que souvent une analyse est quelque chose d'un peu
plus
sûr.
Le choix du ministre de l'Intérieur donnera une signification politique au Christophe, et par ailleurs... Il y a la question des amis du président. Qu'est-ce qu'ils deviennent, les Christophe Castaner, Sibeth Ndiaye, etc. Est-ce qu'ils doivent quitter le gouvernement ou est-ce qu'ils sont placés à d'autres postes? Est-ce qu'enfin, c'est un gouvernement de préparation directe de la présidentielle? Toutes ces questions, on va les voir, mais du coup, je n'ose plus guère m'avancer après que Catherine
n'ait mais j'en sais pas plus.
Mais ce qui est intéressant, je trouve, dans mon ignorance, c'est surtout, si je puis me permettre, la première partie du propos de Jérôme Jaffré. C'est-à-dire que nous, si on voit arriver 4-5 grands ministères, la tendance est d'en faire une lecture exclusivement politique-politique. C'est-à-dire, on dirait, ah ben voilà, c'est un poids nouveau pour Canfin, si c'est lui. C'est un poids considérable accordé à Darmanin, si c'est lui, etc. Alors que, certes, il y a de ça, mais il y a beaucoup plus que ça. C'est que ça marque des choix de politique publique, des choix sur le fond. Si on fait un grand ministère d'écologie et qu'il y a les transports et les logements, le logement, pour reprendre l'exemple de Jaffré, rattaché, ça veut forcément dire qu'on va faire une politique plus écologique.
Oui. Plus écologiste. Mais alors là, je voudrais voir le président qui reçoit le conseil, enfin tous ces 150 personnes.
C'est Convention citoyenne pour le climat.
Convention citoyenne,
vous aimez moyennement.
Ils sont assis
même
dans
le
jardin, vous voyez, même c'est très écologiste de les asseoir dans l'herbe. Et alors, ce qui était très intéressant, c'était de
sur
voir...
Sur une chaise, quand même. Hein.
Sur une chaise, mais dans l'herbe,
oui. Oui, parce qu'à vous entendre, on aurait pu croire que c'était comme aux Invalides.
Non, ce qui était très intéressant, c'était de voir la tête d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui écoutait ça et qui écoutait et le président qui était à genoux devant ces gens qui ne se représentent pas la France, qui sont des Français tirés sur le...
À genoux, c'est une métaphore, là aussi, il n'était pas physiquement...
Non. Ah, mais bon. Et donc, là, je sentais que ça ne plaisait pas du tout au Premier ministre, hein, cette façon de faire. Et alors, ce qui est curieux, dans l'interview d'Édouard Philippe, dans l'interview du président de la République, ou aux journaux de province, le mot écologie, environnement, vient en 3e ou 4e position. Donc, en lisant ça, on se disait, c'est bien la preuve qu'il veut continuer avec Édouard Philippe, vous voyez, parce qu'il n'y avait rien de contraignant, enfin, on pouvait l'interpréter comme ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que
il
cette méthode...
aussi de nouvelle équipe,
de nouvelle équipe,
etc.
Oui,
il disait qu'il est remarquable. Moi, quand j'ai lu Macron disant que dans cette interview que Philippe était remarquable, j'ai conclu, ah, il saute.
Absolument, c'était la jurisprudence de Gaulle en mai 68 qui couvre de fleurs Pompidou et qui est jetée après. C'est parce que les fleurs, quand on jette des fleurs à son Premier ministre, ce sont des chrysanthèmes.
Enfin, Pompidou avait quand même commencé par demander au général de partir.
Jérôme Jaffré, s'il vous plaît.
Nous
devons faire une courte pause, et je trouve que quand on jette des fleurs, ce sont des chrysanthèmes, fait partie des mots de Catherine Ney que nous inscrivons le jour où nous les publierons, et ça nous permet une toute petite pause.
Jérôme Jaffré, politologue et directeur du CECOP, le Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique, et votre invité ce samedi, Olivier Duhamel et Catherine Ney dans Mediapolis.
Alors, Catherine Ney nous expliquait le président de la République avait reçu les 150 représentants de la Convention citoyenne sur le climat, eux, affalés dans l'herbe et lui à genoux devant eux, c'était des métaphores.
Assis dans l'herbe, sur une chaise.
Vous ajoutez une extrémiste sur une chaise.
Oui.
J'ai été obligé de vous interrompre. Quand vous vouliez relever et insister sur un autre point.
Oui, parce que cette Convention citoyenne pour le climat, bon, moi je sais
vous
que...
Vous arrivez à le dire, finalement.
Oui, moi je sais que pour Édouard Philippe, c'était... Je trouvais que c'était très bien de consulter, mais dire que tout ce que vous proposerez, on le retiendra, sauf 3 jokers sur 150, c'est quand même un pouvoir. Et moi, ce que je trouve très intéressant, le président a demandé aux 3 présidents, le président du Sénat, le président du Conseil économique et social et le président de l'Assemblée nationale, de lui faire des propositions. Et ce que je trouve très intéressant, c'est ce que dit Richard Ferrand, qui a envoyé une lettre au président Alors, sur le chapitre « Dialoguer pour agir », il dit « Le dialogue civil doit s'inscrire dans des pratiques renouvelées ». Mais ce serait faire preuve d'un excès d'optimisme que de croire à l'acceptation spontanée de ces dialogues, car les élus doivent avoir le monopole de la décision. Ils ont seuls la légitimité que confère l'élection au suffrage universel. Le monopole de la décision n'est pas celui de la proposition. C'est de bien aux gens de proposer, mais attention que ça revienne au Parlement, et ce n'est pas 150 personnes qu'on va choisir au hasard en tirant au sort qui vont faire la politique de la France.
Alors il y a deux façons d'interpréter ce texte. Si vous permettez, la première, ce serait de dire que, comme beaucoup d'autres, Richard Ferrand objecte à partir d'une erreur. Il n'a jamais été dit par le président de la République, ni avant, ni pendant, ni à la fin, qu'il reprenait toutes les propositions pour les mettre en œuvre. Il a dit qu'il les transmettrait sans filtre, ce qui n'est pas la même chose. On restait dans la proposition. La
deuxième chose, il les transmettrait, mais en donnant une sorte d'accord implicite aux 145e proposition, puisqu'il ne les a pas rejetées. Il n'en a rejeté que 3 ou 4 d'emblée.
C'était pas décisionnel pour le CCC, pour la CCC. Mais le deuxième point, c'est que cette phrase-là écarte les référendums. Le dernier mot, forcément, aux élus, excusez-moi, ça veut dire que c'est une défense bec et ongle de la démocratie représentative, y compris contre le recours au référendum.
Il aurait pu dire, Richard Ferrand, forcément, au moyen d'expression du suffrage universel et de leurs représentants, qui à ce moment-là permettait de couvrir le référendum.
Mais je crois qu'après, il se dit aussi favorable éventuellement. Hein. Je n'ai pas tout lu parce qu'il y a 23 pages.
Merci beaucoup, Catherine.
En tout cas, dans la séparation entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe, nous saurons peut-être un jour, parce que finalement, on apprend après coup, bien après coup, la réalité, l'ampleur des désaccords éventuels entre Macron et Philippe sur la suite du quinquennat. C'est la question de la réforme des retraites, si on supprime l'âge pivot. Édouard Philippe a-t-il... Parce qu'Édouard Philippe, à Paris-Normandie, il avait dit des choses dans ses interviews de Paris-Normandie, c'est une clé pour le suivi d'Édouard Philippe durant ces 3 années. Il a d'abord dit, c'est la légitimité électorale qui importe, dans ce genre de choses, qui est évidemment une phrase importante pour dire, si je suis battu au Havre, je ne continue pas, mais si je suis élu, je représente quelque chose, et j'ai là une sanction du suffrage universel, 59% des voix au second tour, ça n'est pas rien. Et il avait dit, le président sait ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Cette phrase-là, elle est décisive dans la séparation entre les deux hommes, me semble-t-il. Est-ce que, par exemple, Emmanuel Macron prépare une réforme électorale importante avec une très forte dose de proportionnel pour, en vue de 2022. Est-ce que...
Édouard Philippe ne sait pas faire.
Et Édouard Philippe, c'est le genre de choses qu'effectivement, il ne sait pas faire.
Ne sait pas faire, ne veut pas.
Les mesures demandées par la Convention citoyenne et ce qu'elles engagent en termes de jurisprudence sur les décisions, le conseiller d'État Édouard Philippe, manifestement, il y a un problème.
Et
bref,
à mon avis,
nous saurons un jour tout cela.
Et à mon avis, il est à l'origine des deux qui ont été, deux de celles qui ont été écartées. Hein. Parce que écarter le fait de mettre l'environnement au-dessus des lois et libertés, des libertés et droits fondamentaux, et écarter l'inscription dans la Constitution de l'écocide, là, les deux...
En revanche, il a dû jouer un moindre rôle pour les 110 km à l'heure sur l'autoroute, parce que Édouard Philippe, c'est lui qui avait fait les 80 km à l'heure, qui sont responsables à 50% des gilets jaunes, les 50% restants aux petites phrases du président de la République, et à sa part de maladresse, comme il le dit gentiment dans cette interview de la presse quotidienne régionale, que personne du coup ne relève avec l'arrivée de Jean Castex.
Vous avez remarqué que les 80 km à l'heure, beaucoup de départements renoncent à les changer parce que ça coûte trop cher de changer les panneaux. Donc on reste sur les 80 km heure.
Alors il y a quelque chose de mystérieux qui a été dit, mais si je ne me trompe pas, par une dépêche AFP, pas par un communiqué, donc il y a un statut un peu mou, un peu flou, c'est que le président de la République confierait à Édouard Philippe une mission de consolidation de la majorité, laquelle mission il aurait accepté. Alors soit cette histoire-là, c'est du pipeau ou de la barbe à papa pour enjoliver son départ avec un truc qui a l'air gentil, mais il n'en sort rien de chez rien et ça disparaît dans les brumes assez rapidement. Soit c'est confirmé et consistant, auquel cas ce serait un double changement. Ce serait un changement institutionnel d'avoir une sorte de triarchie, le président au sommet, le Premier ministre Castex à la manœuvre dans la décision et l'exécution des politiques sur le fond, et chargé de la majorité, de sa cohérence, de son évolution, ce qui normalement relève pour part du Premier ministre et puis en dernière instance du président, Édouard Philippe, qui serait une sorte de chef de la majorité bis, ce qui me semble quand même assez peu plausible. Et Catherine, vous savez si c'est sérieux cette histoire, vous qui savez toujours plus de choses que moi.
Moi, ça m'a beaucoup surpris. D'abord, la proposition dont vous relevez l'étrangeté et l'acceptation. Parce que Édouard Philippe, ce n'est pas quelqu'un qui, comme chef de la majorité, bien qu'il ne soit pas, était plutôt agacé par les dissensions. Ce n'est pas quelqu'un qui voudra aller faire le ménage. Et
ça
dire,
l'emmerdait déjà.
Mais ça l'emmerdait déjà, donc il ne va pas s'y mettre. C'est quelque chose d'abord de très barbare, ça prend beaucoup de temps s'il faut mettre les gens ensemble. Mais s'il a dit oui, parce qu'il était aussi piégé par une de ses paroles, où il avait dit « moi, j'agirai pour la réélection du président ». Donc pour l'instant, il est sincère. Sauf en disant cela, il déçoit beaucoup de gens, ses partisans, parce qu'il en a, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'il aide à la réélection de Macron, parce que ça existe, ça aussi. Mais ça ne dit pas non plus que lui a une ambition présidentielle. Pour l'instant, il n'en a pas.
Ce qui pose la question d'Édouard Philippe recours. On écoute juste un commentaire là-dessus et ensuite, Jérôme, vous complétez les analyses qu'on vient d'entendre.
On peut avoir envie à un moment donné de passer à une autre étape pour préparer l'avenir.
Oui, une autre étape plus cruciale en 2022
Je ne sais pas si c'est en 2022 ou plus tard, mais enfin, je ne pense pas qu'il compte arrêter là sa carrière politique. Tout dépendra de ce qui se passera d'ici là. Si nous arrivons à vaincre la crise économique, le président de la République a toutes les chances de pouvoir se représenter. Si jamais, effectivement, cela n'arrivait pas, Édouard Philippe devient évidemment quelqu'un qui est incontournable.
C'était donc Gérard Collomb, ancien maire de Lyon, invité de Pierre Villeneuve dans le journal de la mi-journée sur Europe 1 hier. Gérard Collomb, finalement, peut-être la meilleure politologue que politique, puisqu'il n'a pas franchement réussi toutes les opérations qu'il a menées sur Lyon. Est-ce que là-dessus, il a raison? Est-ce que Édouard Philippe est devenu le recours, Jérôme Jaffré?
Alors, c'est évidemment un rôle que peut jouer Édouard Philippe. Enfin, comme conseiller électoral, Gérard Collomb, maintenant, c'est pas terrible, hein. Mais j'observe, je regardais le destin des premiers ministres, toujours dans la typologie des premiers ministres, il n'y a pas beaucoup qui ont fonctionné en recours. Georges Pompidou a eu la chance inouïe, c'est que le général de Gaulle arrivait au terme de ses mandats et donc le recours dans lequel il était placé en juillet 68 l'a fait président de la République dès le mois de juin 69.
Et qu'en plus, des gaullistes de gauche, des gaullistes sociaux, dirait Castex, ont monté une opération ignoble contre lui avec l'affaire Markovitch.
Voilà,
qui a hâté le départ du général.
Raymond Barre a été l'autre recours possible, mais finalement, il a échoué dans la conquête de l'Élysée. Et après la défaite de Giscard, voyez le processus, c'est intéressant pour Barre. Barre, après la défaite de Giscard, devient le recours, comme Édouard Philippe pourrait devenir un recours vraiment après une défaite éventuelle d'Emmanuel Macron en 2022. On peut considérer que François Fillon avait un certain rôle de recours derrière Sarkozy, mais ça a été assez saccagé. Donc, au total, vous êtes dans une situation où le recours en général ne sert à rien, au bout du compte.
Attendez, Jérôme, si on résume, puisque vous adorez les typologies, il y a les premiers ministres qui ne sont même pas devenus des recours possibles. La liste est longue.
Très longue.
Les premiers ministres qui sont devenus des recours possibles, mais ça a échoué. Barre étant le meilleur exemple, et Fillon aussi. Et puis vous avez les premiers ministres recours réussis. Et là, on a fondamentalement Pompidou.
À peu près, oui, parce que les premiers ministres, aucun premier ministre à part Georges Pompidou et Jacques Chirac, servi par, n'est devenu président de la République. Donc ça n'est pas rien. C'est une machine à fabriquer des hommes d'État, mais pas à vous amener à l'Élysée. Hein. La fonction de Matignon, c'est extrêmement intéressant. Là-dessus, un mot de la mission effectivement assez stupéfiante confiée à Édouard Philippe. Parce que Édouard Philippe n'est pas du tout fait pour une mission pareille. J'ai regardé pour les municipales, par exemple. Les municipales, avant le premier tour, il n'y avait pas encore la pandémie, Édouard Philippe, en tout et pour tout, a fait un seul déplacement en dehors du Havre pour soutenir un candidat. C'est le député de La République En Marche qui était candidat à Metz et qui, au soir du premier tour, a fait 7% des voix, c'est-à-dire moitié moins que le score habituel de La République En Marche qui, en général, performe à 15%, là où il faut une majorité pour être élu maire d'une ville. Donc, c'est effectivement... Et c'est le seul meeting qu'il ait tenu à ce moment-là. Il n'a pas voulu adhérer à La République En Marche. Il n'a jamais voulu vraiment jouer le rôle de chef de la majorité. Donc, c'est une fonction assez cocasse, dont le rôle essentiel est d'arrimer Édouard Philippe à Emmanuel Macron. C'est la seule fonction véritable de la chose, c'est-à-dire, il reste dans le circuit, il reste mon féal et non pas mon rival.
Alors, j'ai un dernier gros sujet sur lequel j'aimerais beaucoup entendre les analyses de Jérôme et de Catherine, qui est la possible transformation de notre paysage politique que cette nomination marque. Mais avant, nous allons faire le petit détour international qui m'est cher à travers les sélections que nous font Alice Baudry, directrice de la communication de l'Institut Montaigne. Et en effet, assez légitimement, elle a choisi un article qui concerne l'autre grand héros ou héroïne de la semaine, à savoir Angela Merkel, qui prend la présidence du Conseil des ministres de l'Union européenne. Phase Woche, magazine hebdomadaire du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, vient de faire paraître son ultime numéro après 4 ans d'existence. Et c'est une clôture osée avec en couverture la chancelière habillée en super-héroïne accompagnée du titre « Wonder Merkel »,« Merkel miracle ». Et en sous-titre, la chancelière ne se contente pas de lutter contre la pandémie et pourtant elle prend son envol tardivement. Chez nous, Libération a consacré cette semaine à cette une un article au moment du début de la présidence de l'Union, comme je l'ai dit. Et cette couverture est intéressante car elle reflète l'état d'esprit qui règne en Allemagne. La chancelière et son art du compromis sont perçus comme un havre de paix pour nos voisins. Wonder Merkel est donc saluée par son peuple et beaucoup attendue, est attendue d'elle avant la fin de son mandat où elle aura régné 15 ans durant. Est-ce que c'est... d'abord, est-ce que ça compte pour les Français, vous qui êtes un spécialiste de l'opinion? Est-ce que les Français perçoivent l'importance de Merkel? Est-ce que le lien Merkel-Macron, qui a été spectaculairement consacré à nouveau dans cette toute dernière période, est quelque chose qui pèse un peu positivement, contrairement à beaucoup d'autres, pour Emmanuel Macron, Jérôme Blanfray?
Sans doute, mais pas suffisamment pour Emmanuel Macron et aux yeux d'Emmanuel Macron. C'est un peu le problème, c'est-à-dire que d'abord, la capacité de se réinventer que voudrait Emmanuel Macron, Angela Merkel l'a portée totalement, elle. C'est-à-dire que par rapport aux positions traditionnelles de l'Allemagne, le plan de relance qui est fait, ce qui est proposé au niveau européen, c'est une réinvention formidable et qui change beaucoup de choses là-dessus. Deuxième remarque, c'est la notion de fin de règne que Angela Merkel met à bas. D'habitude, quand vous dites, vous êtes là depuis 15 ans, vous faites votre dernière année... On dit vivement la succession, ça ne peut plus continuer, ça ne peut pas durer. L'Allemagne, avec un tout autre système politique, elle a réussi quand même, depuis la fin de la guerre, Adenauer, Kohl, Merkel, 3 très grands hommes d'État. C'est-à-dire que c'est assez impressionnant et ça fait réfléchir.
Schmitt, on peut dire quand même, et Helmut Schmidt.
Alors vous en mettez un quatrième, et du coup Giscard pour la France dirait « et moi, et moi, et moi ». Mais enfin bon, disons en tout cas 3 à coup sûr. C'est assez impressionnant comme résultat, je trouve. Mais Angela Merkel, elle a accordé une interview au journal Le Monde samedi dernier. Et je suis. Alors évidemment, c'était la veille du second tour des municipales. Mais il est stupéfiant que les médias ne s'en soient pas emparés, qu'il n'y ait pas une discussion là-dessus. Merkel, quel était le titre? Il est de l'intérêt de l'Allemagne que l'Union européenne ne s'effondre pas. Mais ça veut dire donc qu'elle pourrait s'effondrer, l'Union européenne? Il y a quand même de quoi débattre là-dessus.
Et pourquoi dit-elle cela, que si l'Union européenne s'effondre, alors que les marchés américains se dérobent pour l'Allemagne, c'est l'Allemagne qui en pâtit. Merkel ne réagit que lorsque l'Allemagne est en péril.
Ça va un peu plus loin quand même.
Mais écoutez, en tous les cas, c'est la première fois qu'elle va si loin avec Emmanuel Macron, alors que ses prédécesseurs, les prédécesseurs qui ont essayé de faire des choses avec elle, avaient beaucoup de mal à la décider sur tout un tas de sujets. Mais je voudrais aussi dire une chose, c'est que les Allemands sont prêts même à la élire pour un 5e mandat. Alors qu'en France, on change tous les 5 ans, ou on espère changer tous les 5 ans, c'est des pays qui prospèrent parce que la stabilité et qui est la situation, et la France à cause de l'instabilité politique.
Frankreich unter alles. Allez, on revient à la question du paysage politique dans une minute.
C'est Mediapolis jusqu'à 11h. Vous êtes avec Olivier Duhamel et Catherine qui finissent la saison avec Jérôme Jaffré, politologue et directeur du Centre d'études et de connaissances sur l'opinion publique.
Et auquel je voudrais soumettre la thèse suivante. Est-ce que l'on peut déduire, d'une part, des élections municipales et d'autre part de la nomination d'un nouveau Premier ministre en la personne de Jean Castex, ex-républicain, l'annonce d'une transformation du système politique français, du paysage politique français, qui grosso modo a implosé au moins depuis 3 ans, et qui serait en train, par la montée des écologistes, par l'alliance entre écologistes et gauche, d'un côté, et par l'évolution de plus en plus à droite d'En Marche, aussi bien dans les alliances municipales que dans le choix du nouveau Premier ministre, de l'autre, nous mettrait une nouvelle composition, une stabilisation d'un nouveau paysage qui serait une sorte de retour transformé aux 90s, dans lequel on aurait stabilisation de deux gauches, une gauche radicale autour de la France insoumise et quelques citoyens et autres, une gauche de gouvernement entre socialistes et écologistes devenus raisonnables. Et de l'autre côté, trois droites, En Marche, qui est une sorte de nouvelle UDF, regroupant tout ce qui existe comme centre et centre-droit, et puis les Républicains qui seraient ce qu'était le RPR et le Front National, et qu'on se stabiliserait sur cette nouvelle configuration. Est-ce que voir cela, Jérôme Jaffré, c'est s'illusionner ou c'est à tout le moins une des hypothèses ?
Oui, il y a quand même dans cette affaire des municipales, d'abord, moi, ce qui me frappe, c'est que la fragmentation des forces politiques reste tout à fait confirmée. C'est-à-dire que les écologistes, on parle des écologistes, et il y a des performances, effectivement, dans les très grandes villes. Mais par exemple, quand les écologistes se présentent en liste autonome, en moyenne, ils font 14% des suffrages exprimés au premier tour. C'est-à-dire que ce n'est pas une domination, ce n'est pas un leadership. Ce sont plutôt des porte-drapeaux que des leaders pour des listes d'union. Deuxièmement, si nous restons... Évidemment, il y a une hésitation écologiste entre savoir s'ils sont dans la gauche radicale ou dans la gauche de gouvernement, dans la typologie. Puisque vous aussi, vous aimez les typologies, vous avez esquissé. Et du coup, on ne sait pas bien, si les écologistes veulent vraiment s'allier aux socialistes ou veulent avoir la peau des socialistes. Stratégie antisocialiste. Oui, mais alors les socialistes, à un moment donné, vont peut-être se poser la question de savoir si continuer à envoyer des fleurs aux écologistes qui n'ont qu'une idée, c'est de les détruire, est une très bonne stratégie. De ce point de vue,
les communistes, ça leur a pris 15 ans à comprendre que...
La réélection in extremis de Martine Aubry a beaucoup fait pour la paix des ménages, car imaginez Martine Aubry battue à Lille, c'était la crise ouverte entre socialistes et écologistes, puisque les écologistes étaient arrivés derrière les socialistes au premier tour.
Mais enfin, sauvés par la droite, qui l'aurait imaginé.
Oui, la dame des 35 heures sauvée par la droite à Lille, c'est spectaculaire, effectivement. À droite, le problème qui est posé, c'est une incapacité d'additionner les forces aujourd'hui. C'est-à-dire que dans un scrutin à deux tours, la droite et le centre. Incapacité d'additionner. Là, l'exemple de Bordeaux est stupéfiant. Voilà quand même une fusion qui a été faite. On est en terre juppéiste. La liste En Marche fusionne avec la liste du successeur d'Alain Juppé.
Le total
devrait garantir la victoire. C'est un total qui est à 47% pour cette fusion. Les écologistes ont seulement 35%. L'extrême gauche avec Poutou
se maintient.
La France Insoumise se maintient. Donc les conditions sont tout à fait réunies. Pas du tout. Ça ne s'additionne pas, ça ne se retrouve pas dans les urnes. Et du coup, ça pose d'abord, ça change la donne pour les régionales de l'année prochaine, qui seront du coup la copie de ces municipales. Fusion et bloc à gauche, séparation du centre et de la droite, les régions peuvent massivement basculer. L'élément important de l'interview du président, passé complètement sous silence par tout le monde hier, comme je l'ai déjà dit, c'est qu'il n'y aura pas de report des régionales et que les régionales auront bien lieu l'année prochaine. Maintenant, pour la présidentielle, c'est autre chose. On est dans un autre schéma où, par exemple, la crédibilité des écologistes est une question qui reste posée sur une élection présidentielle qui est l'inverse de ce qu'ils sont en termes de crédibilité et en termes d'incarnation, de leader capable d'incarner la fonction présidentielle.
Quand vous dites que ça va se reproduire, moi, j'en suis pas sûre, parce que le fait de ces municipales, c'est l'abstention. Et l'abstention, quand certains disent, c'est le dégagisme. Eh bien non, moi, je pense que c'est l'indifférence et la paresse, l'engourdissement dû au Covid. Quand vous voyez que tous ces gens qui ont été enfermés chez eux, qui ont travaillé chez eux, qui ont tellement de mal à venir retravailler, il faut les... il y a eu des enquêtes et qui disent que c'est une perte du sens collectif, y compris dans l'entreprise. Eh bien, cette perte du sens collectif qui est due au Covid, parce que l'engourdissement des esprits, ça, elle disait aux gens, regardez, les électeurs à Bordeaux ne se sont pas déplacés. Les électeurs qui auraient pu voter pour la droite, ils sont allés à Arcachon, j'en sais rien, ils n'ont pas été votés. Et je crois que ça, cet effet Covid, est-ce que ça va continuer l'année prochaine? On le verra. Mais je pense que ça a été très important.
Le Covid, c'est pas fini, mais ça s'apaise un peu. Le soleil est là, les vacances arrivent. Dernière chanson de la saison de Mediapolis. Ou d'ailleurs, je vous le confirmerai tout à l'heure, on se retrouvera l'année prochaine. Pierre Perret, Quand le soleil rentre dans ma maison, chanson de 2013. Merci Pierre Perret. Merci Jérôme Jaffré, notre invité. Merci bien sûr Catherine Ney, avec laquelle j'ai eu le bonheur de partager cette saison. Et on se retrouve ensemble à la rentrée, la dernière semaine d'août, ce qui est bonheur aussi. Merci à notre réalisateur Jean-Luc Arblade, au chef d'antenne Michel Lehenaf, à Capucine Patouillet qui a préparé fort bien cette émission, d'autant qu'on lui a fait tout refaire en dernière minute hier soir avec les nouvelles informations. À Justine Holman qui l'a animé toute cette année et qui part vers bon vent, comme dit Édouard Philippe. Justine Holman, bon vent. Je vous dis aussi, si ça vous dit, c'est pas terrible évidemment, que cet été vous aurez à l'heure de Mediapolis des podcasts préparés par Capucine Patouillet sur d'une part les démissions ministérielles et d'autre part l'histoire des élections présidentielles américaines. Et bonnes vacances à tous. Et puis maintenant on va parler de fleurs de courgettes, si je ne me trompe pas.
Avec Laurent Mariotte. Eh oui, les vacances démarrent pour certains, mais pas pour la table des bons vivants qui a plein d'idées et d'astuces pour vous. Bonjour Laurent.
Bonjour Catherine et Olivier, et bon samedi à vous deux. Bonjour Justine. Oui, c'est les vacances, alors on vous a fait une belle sélection de bistrots et de fermes auberges partout en France. Nous allons cuisiner aussi les fleurs de courgettes, c'est vraiment la saison. Et Thomas Dutronc viendra casser la croûte avec nous. A tout de suite.
A tout de suite Laurent.